Ravie d'être en osmose ce matin avec Gaëlle Bogossian et Paolo Correia. Ça commence bien, excusez-moi.
C'est pas facile, Correia.
Correia, non, mais c'est
j'ai vécu ça toute ma vie, moi.
C'est un Correia. Paolo Correia. D'ailleurs, on dit Polo ou Paolo ?
On dit Paolo, mais j'accepte Polo, j'accepte tout, moi, en fait.
Ok. Compagnie Collectif 8, je suis ravie de vous accueillir parce que ben, vous êtes quand même mon gros coup de cœur de ce Festival Off 2024 avec la pièce 1984 que vous jouez tous les jours jusqu'à la fin du festival. Donc, ça a commencé le 29 juin et c'est jusqu'au 21 juillet, donc au Théâtre de Loul à la Factory à 17h10.
Tout à fait.
Donc Gaëlle, tu es metteuse en scène et adaptatrice.
C'est ça.
Et puis Paolo, toi tu es comédien à la fois et créateur vidéo.
Oui, c'est moi qui ai créé les images avec sous la direction de Gaëlle qui elle a fait la dramaturgie. Et donc dès qu'on commence à parler dramaturgie, obligatoirement ça nous oblige à avoir une certaine éthique, une certaine rigueur par rapport à l'iconographie, par rapport à la colorimétrie, par rapport à plein de choses. Donc en fait c'est pas moi je fais les images avec mes petits ordinateurs, mais tout vient de Gaëlle qui elle quand elle écrit ses adaptations met déjà en images ce qu'elle comment elle agence le texte. Donc en fait c'est vraiment une collaboration à deux.
D'accord. Donc oui, parce que tu fais bien en parler, hein, vidéo. On est dans une pièce de théâtre numérique, théâtre vidéo. Donc ça, on va y revenir. Mais avant ça, donc 1984, qui ne connaît pas au moins de nom et qui ne l'a pas lu. Donc,
justement.
Ouais, roman de George Orwell d'anticipation, qu'on appelle même dystopique, hein, pour faire le pendant de l'utopie. Donc ce roman d'anticipation... Eh bien, j'ai envie de dire qui ressemble furieusement à l'actualité, effectivement. Mmh. Donc, est-ce que déjà, on va peut-être faire le pitch de 1984 et de la pièce. Hein, donc, on a une histoire de trois personnages que vous jouez.
Oui, on a trois personnages. J'ai resserré l'adaptation autour de ces trois personnages qui sont Julia, qui sont Winston et O'Brien. Donc Julia et Winston font partie de cette société-là et O'Brien est au-dessus. C'est le bras armé de Big Brother, en fait. Donc on a un Big Brother tout puissant qui est en surveillance. On a aussi une hiérarchie au niveau sociétal. On a les prolétaires, au-dessus on a les petites mains de cette dictature et encore au-dessus on a ceux qui font partie du bras armé de Big Brother et on a ce Big Brother qui est plus une figure finalement, on ne sait pas s'il est encore vivant, on ne sait pas, en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement cette figure-là, qu'elle soit vivante ou pas, elle est manipulée et puis elle est tentaculaire, c'est surtout ça qui est très, très fort dans ce roman-là. Et puis ça parle de surveillance, ce sont des gens qui sont fichés, c'est-à-dire que les bras armés tentaculaires de ce Big Brother connaissent tout de tout le monde, tout le temps. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu le monter, puisque en 2020, on sait très bien ce qui s'est passé, on a joué juste avant le confinement. Voilà, ouais, donc c'était à nouveau, c'était déjà une situation brûlante.
Oui, je précise que la pièce a été montée le 4 mars 2020, donc juste avant le confinement.
On a joué une semaine avant qu'on nous dise, et du coup c'était très effrayant parce que la fiction, la réalité, tout se mélangeait jusqu'à ce que la réalité rattrape la fiction et qu'on nous dise « vous ne jouez plus ». Donc ça ressemblait à une censure, sans en être vraiment une, mais c'en était une finalement. Et puis on entendait dehors, dedans, le spectacle, c'est-à-dire qu'on soit dans la vraie vie ou qu'on soit dans le petit écran du théâtre, on vivait la même situation, les drones qui nous disaient « rentrez chez vous », cette surveillance qui commençait à émerger. C'est pour ça que j'ai voulu le monter, parce qu'en 2019-2020, on avait une émergence de reconnaissance faciale, surveillance, réseaux sociaux, tu livres toutes tes données à on ne sait qui. Parce que c'est ça aussi qui est très fort dans 1984, c'est que ces gens sont fichés, on sait tout de leur vie, et finalement, ils ont accepté. Et c'est le « accepter », moi, qui m'interrogeais. Et d'ailleurs, c'est très fort dans le personnage d'O'Brien, c'est-à-dire que c'est la parole finale. C'est bien, vous avez fini par accepter. Et c'est cette acceptation-là qui m'interrogeait beaucoup. Je me disais, mais on est en train d'accepter tout. On est en train d'accepter de livrer nos vies, notre intimité, notre amour, nos rêves, nos envies à on ne sait qui, une sorte de chose abstraite qui serait un Big Brother, finalement. Et puis voilà, le confinement, et puis voilà, aujourd'hui, voilà, les réalités se fondent dans cette fiction-là.
Ça rejoint effectivement la fiction, c'est une sacrée œuvre visionnaire quand même, parce que ça a été écrit en 1949 hein, par George Orwell.
Oui, 48.
48, oui, pardon, 1984.
Publié,
ouais, ouais. Oui, ouais. Exactement, ouais, publié en 49 ouais. Et écrit en 48. Donc c'est quand même assez, assez noir, hein, mais malheureusement, d'actualité encore une fois, parce qu'on parle de régime totalitaire, un mélange de nazisme et de stalinisme. On parle, donc tu l'as évoqué, de la surveillance, on parle de l'appauvrissement de la langue aussi.
Ah,
avec
c'est
la
super
langue.
Important
très,
pour moi.
Très, très important, ça.
Ça, c'était un de mes fers de lance de cette décision-là de monter 1984. C'est-à-dire que j'observais effectivement un appauvrissement du langage et un détournement des mots et de leur signification. Et ça, ça me faisait extrêmement peur. Je l'observais autour de moi, mais je l'observais aussi à la télé, partout. Je te laisse la parole.
Bah, moi, par exemple, quand on découvre quelqu'un comme Franck Lepage, qui parle justement de cet appauvrissement du langage, qui parle de comment le langage, par exemple, des chefs d'entreprise ou des entreprises remplace carrément les vrais mots de la langue française, ça, c'est vrai que ça nous perturbe, nous qui sommes des gens de théâtre, donc on va s'intéresser aux verbes énormément et tout ça. Là, c'est vrai que tout d'un coup, ça arrive sans qu'on s'en rende compte. Tout petit Gaël prend toujours cet exemple assez incroyable, c'est que quand tu mets une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle saute et elle s'en va. Mais si tu la mets dans une casserole d'eau froide et puis que tu fais bouillir l'eau petit à petit, la grenouille, elle ne sent pas arriver jusqu'au moment où elle meurt sans s'en être rendu compte. Et je trouve qu'on est dans... Alors, sans vouloir faire des trucs alarmistes, ça va.
On est quand même dans cette situation.
Mais il y a quand même cette situation où il ne faut pas s'endormir. Il faut continuer à réfléchir. Nous, on monte toujours des spectacles politiques dans le sens politique, au sens de la police, la cité. C'est-à-dire des choses qui doivent faire réfléchir les gens. On n'apporte aucune solution, concrètement. On choisit des auteurs qui posent des problèmes qui sont, à notre avis, majeurs. Mais après, c'est à chacun de tirer le fil, de savoir ce qu'il en pense réellement ou pas, où il va, pourquoi. En tant que citoyen, je me pose énormément de questions. Je vois ce qui se passe là, à l'heure actuelle, concrètement, là. Je veux dire, en France, avec ses législatives, avec tout ça, je me dis, est-ce que les gens ont suffisamment de clés pour pouvoir ouvrir suffisamment de portes, pour pouvoir avoir une ouverture d'esprit, ou est-ce qu'on n'a pas tous été déjà un peu formatés d'un côté ou de l'autre d'autres, mais...
Je voudrais rebondir là-dessus. En fait, on a eu pas mal de discussions avec des jeunes gens, puisque ce sont des spectacles numériques. C'est une belle entrée à la jeune génération. Nous, on a vraiment des publics très, très mélangés. On a des grands-parents qui amènent leurs petits-enfants, des petits-enfants qui amènent leurs grands-parents. Donc, c'est vraiment l'art numérique qui aussi est fédérateur de plusieurs générations. Ça, c'est très beau. Et en ça, on avait beaucoup de discussions avec des jeunes gens et on leur disait, vous, la surveillance, le téléphone, vous savez que vous avez une caméra, vous avez un micro, ça vous fait pas peur? Et ils nous disaient, bah, non, nous, on n'a rien à cacher. Et ça, c'était une chose assez forte. On leur disait, oui, vous avez rien à cacher, mais n'empêche, tout ce que vous êtes, tout ce que vous rêvez, tous vos loisirs, toutes vos peurs, toutes vos angoisses sont livrées. Et là, au bout d'un moment, ces jeunes gens avec qui on avait les discussions nous disaient, c'est vrai. Et il n'y a pas de, prise de conscience que l'intimité, c'est une chose. C'est une chose qui doit être préservée. Parce qu'aujourd'hui, finalement, l'intimité est donnée à tout va, à tout vent, à n'importe qui, n'importe comment.
Tout dépend de qui s'en sert, en fait.
Encore une fois, ce dont on parlait, là, on vient de monter le meilleur des mondes. Hein, c'était la création du collectif Fille de cette année. Et j'ai inventé, il y a un an, un personnage qui est une intelligence artificielle, avant qu'on en parle vraiment très, très fort. Mais, et cette intelligence artificielle, il y a un débat. Est-ce qu'on doit accepter l'intelligence artificielle ou pas? C'est pas la question, c'est pas le sujet. Souvent, on se trompe. Il y a un sujet. Le sujet, c'est là. Cette intelligence artificielle, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on en fait et dans quelles mains on donne ces outils. Ces outils sont magnifiques, ils sont beaux, mais comme la technologie. Par exemple, nous, notre image dans nos spectacles, elle n'est pas là pour remplacer un décor. Elle n'est pas là pour pallier un soi-disant manque de production.
C'est pas ça.
Elle est là pour donner de l'émotion. Elle est là pour donner du sens. Elle est là pour donner de l'immersion aux spectateurs. Encore une fois, c'est un outil. Comment on s'en sert
exactement. Justement, on va revenir sur cet aspect vraiment très, très original hein, dans le monde du théâtre. C'est qu'on mélange le numérique avec le théâtre, on mélange la vidéo pour, comme tu disais, immerger un peu plus le spectateur. Juste petite parenthèse, donc le spectacle 1984 vient d'être classé dans le top 50 des spectacles inratables.
Et on est ravis, on est très heureux.
Donc ça, c'est vraiment génial et c'est un grand bonheur. Et peut-être aussi parce qu'il y a cette particularité, cette immersion, en plus du fond dont vous avez bien parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça se passe ? Donc il y a de la vidéo, c'est toi, Paolo,
en fait,
qui a la manœuvre de tout ça ?
Ouais, nous, ça fait à peu près 20 ans qu'on réfléchit sur comment utiliser la vidéo au théâtre. Alors, on a fait plein d'essais, on continue à faire des essais parce que chaque spectacle va amener des choses différentes et tout ça. Là, dans 1984, Gaël voulait absolument des personnages qui seraient comme dans une sorte de construct qui serait une salle de torture virtuelle. Imaginons qu'on mette un casque virtuel à quelqu'un et qu'il pense que c'est la réalité par des drogues ou par quel que soit le procédé et que tout d'un coup, ce qu'il voit, en fait, ça soit la réalité pour lui. Et donc, du coup, là, on peut complètement faire n'importe quoi. Et donc, dans sa dramaturgie, elle a fait ça. C'est-à-dire que les personnages, elle est partie de la fin du roman et les personnages sont enveloppés d'images parce qu'ils repensent à leur passé, on revient sur les pas de ce qu'ils ont traversé, ils sont obligés de parler, de dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, où ils étaient, pourquoi, qu'est-ce qu'ils voyaient autour d'eux et tout ça. Donc toute la vidéo de 1984, c'est comme les réminiscences d'un souvenir dans la tête de quelqu'un. Le spectateur, lui, il voit un personnage, alors en plus il est enchaîné parce qu'on a le côté marionnette, c'est-à-dire que c'est moi qui emmène les comédiens où je veux, avec des moteurs. Ils sont enchaînés, ils sont avec des baudriers, ils se baladent dans l'air et je les emmène où je veux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la liberté de leur propre mouvement à eux.
Intéressant.
Et tout d'un coup, l'immersion, elle se fait. Alors, j'ai deux serveurs et puis trois vidéoprojecteurs, donc c'est un gros dispositif, on va dire. Et depuis quelques temps, on travaille énormément avec les tulles. Donc le spectateur voit le spectacle à travers, comme un écran, qui n'est pas vraiment un écran. On voit, il y a toujours de l'humain sur les spectacles. Mmh. Hein, et les comédiens sont obligés de donner énormément d'eux-mêmes.
Le vivant reste au centre du numérique. Hein,
toujours, toujours. Mais les spectateurs, eux, ce qu'ils voient, alors souvent ils nous parlent de 3D. C'est pas réellement de la 3D parce que tout ce qui est hologramme et tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est très, 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 très trop compliqué à faire. Mais déjà, au temps de Shakespeare, on savait faire des paper ghosts, c'est-à-dire cette espèce d'illusion où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, comme un fantôme et tout ça. Nous, on travaille avec les tulles et avec des écrans derrière. Et donc, du coup, on a l'impression vraiment qu'on est dans un film. C'est-à-dire que les comédiens sont à l'intérieur, mais de la 360 degrés d'image. Et là, on a la chance au Théâtre de Loule, qui est une salle beaucoup plus petite que là où on a créé à l'origine. Je pense que les gens qui l'ont vu à la création voyaient quelque chose d'assez monumental, très
impressionnant
au niveau du graphisme. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus intime, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur et on peut presque toucher les comédiens. Mmh. Donc on est presque violemment encore plus dans cette, parce que ils se prennent des coups d'électricité à chaque fois qu'ils répondent mal à mes questions, donc il y a quand même quelque chose de très violent. Enfin je veux dire, il faut que les gens le sachent, c'est pas un spectacle rigolo du tout.
Orwell, quand il a écrit ce roman, il voulait un électrochoc, une prise de conscience. Mmh. Et il voulait quelque chose de violent. Donc moi, je suis très respectueuse des auteurs à chaque fois. Et ce qu'il voulait, je l'ai transcrit. Donc effectivement, cet électrochoc est réel, il est là. Et le spectateur est complètement immergé dans cet univers, puisque comme il est très très proche, il est avec. Et effectivement, les spectateurs sont très impactés. Mais c'est ce que voulait Orwell,
oui, oui,
parce qu'il ne voulait pas passer par la douceur pour passer son message. Mmh. Il passait par quelque chose d'extrêmement intense, et c'est ce qu'on a voulu aussi retranscrire. Et effectivement, on part de la fin du roman et de cette salle d'interrogatoire virtuelle, parce que aussi à l'époque, émergence du casque VR, et je m'étais dit, tiens, quelqu'un qui a le vertige et qu'on plonge à travers un casque VR dans l'espace a réellement les sensations. Est-ce que quelqu'un d'assez tordu va inventer un objet de torture via le virtuel, oui, sûrement, un jour. Et donc, c'est cet objet de torture XXL qu'on a inventé. Et encore une fois, l'objectif n'est pas du tout de violenter le public. Le public a aussi des bulles de poésie, des bulles de tendresse et de douceur. Mais il vit une expérience intense, et c'est ce que voulait Orwell. Donc nous, on porte la parole d'un auteur et la parole d'une éthique aussi qui nous touche énormément. Mm-hmm. Les spectateurs sont avec nous dans le dispositif. Ça, c'est assez impressionnant.
Ouais, voilà. Ouais, puis là, au Théâtre de Loul, ça marche très très bien.
Oui.
Ouais, c'est,
on avait
c'est
un peu peur, c'est toujours compliqué de faire Avignon parce qu'on n'est pas dans les conditions réelles d'une tournée où on peut s'installer. Comme nous, on a beaucoup de techniques, on a beaucoup besoin de temps en fait pour installer. Là, on a la chance quand même que ça se passe très très bien et que le système continue à fonctionner, même dans une salle où il y a énormément plus de projecteurs au plafond, où il y a des choses sur les côtés, où il faut qu'on range nos décors, tout ça. Mais
on a été super accueillis. Il a fallu recréer l'illusion en fait, parce que nous, notre travail, c'est de travailler. C'est de créer de l'illusion. Et en ça, je pense qu'on y arrive pas mal.
Okay.
Mais on avait le grand frère. Et le grand frère qui était plutôt l'IMAX. Voilà. Et là, on a le poste télé. Alors, ce n'est pas aussi petit, évidemment, le théâtre de Loul est grand, c'est un beau plateau.
Ouais,
mais
ouais.
On a plus cette sensation de proximité, en fait. Et l'illusion a dû être recréée. Mais on a bénéficié d'une semaine de résidence dans le lieu pour recréer le spectacle. Ouais. Et c'est le spectacle, mais
en immersion encore.
Il a une identité particulière.
Ouais, c'est...
Et donc, au final, on a toujours très peur d'être dans le festival, toujours, vraiment. Mais en même temps, c'est la peur aussi qui nous motive. Mais du coup, ça nous a permis de créer un spectacle à l'image aussi de cette salle et des spectateurs qui viendront.
Ok, l'importance de la musique également et des lumières, j'en profite au passage pour...
Nous, en fait, on travaille exactement comme au cinéma. On reprend des codes cinématographiques. Gaël et moi, on vient d'un milieu, on va dire, plutôt ouvrier, sans pleurer ni envoyer les violons.
C'est un milieu social.
Et tout d'un coup, on a vécu avec la télévision, avec le cinéma. Gaël regarde au moins un film par jour, si ce n'est plus. Donc, et de tout confondu.
Ah
donc,
oui, je suis une dévoreuse
moi aussi,
de cinéma.
Et j'adore aussi, moi, j'adore la bande dessinée, j'adore les jeux vidéo. Donc on est on va dire, on se tient au courant de ce qui se passe, en gros. Et la musique, en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, au cinéma, il y a jamais aucun film n'a pas de son. Il y a toujours du son au cinéma, toujours. Et quand il n'y a plus de son, en fait, on se dit, tiens, il y a un problème technique. Et bien nous, en fait, le silence théâtral, il n'existe dans nos pièces que quand il est voulu provoquer encore une fois, amener le spectateur à penser à quelque chose de
très
fort.
Et le silence d'image.
Et le silence d'image aussi.
L'absence fait sens aussi. Voilà.
Tout à fait.
Mais sinon, tout avant, il y a toujours du son. Alors que ce soit des drones qu'on entend derrière, ce qu'on appelle des drones, c'est juste un peu du son, comme si c'était, on entendait les néons et tout
l'ambiance.
Ça, ou comme ici. Là, on entend tout, on entend des gens qui parlent au fond. Enfin, et donc, du coup, on a repris les codes du cinéma pour pouvoir les réinsuffler comme nous, on a de l'image tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la vidéo de temps en temps dans nos spectacles. On commence le spectacle, il y a de la vidéo. Jusqu'à la fin du spectacle, il y a de la vidéo. Ben, il y a du son du début à la fin. Et aussi bien la musique que les images doivent amener de l'onirisme. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a travaillé là, plus spécialement sur 1984, Gaël me parlait, c'est un monde froid, c'est un monde dur, il n'y a pas de couleur, les gens sont tous habillés pareil et tout ça. Et donc, du coup, j'avais commencé à travailler sur des images en noir et blanc. Comme c'était des images qui revenaient de la tête d'un des personnages qui retournait dans son passé, et qu'il y avait cette espèce de construct là, de cette salle virtuelle, en fait, j'ai fait que des images qui viennent d'ordinateur. Donc, il n'y a pas d'images filmées réelles. On n'a pas été dans la forêt, on n'a rien filmé.
On n'est pas dans le réalisme.
C'est
du tout.
Que de la 3D. Ouais. Et c'était voulu, ça, pour, spécifiquement pour celui-là. Les autres, on a fait autre chose. Mais donc, du coup, là, oui, ouais, il faut se dépêcher.
Ça partait de la dramaturgie où cette dictature part du principe qu'il faut vider les gens d'eux-mêmes pour les remplir du parti. Ah, oui. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Vider les gens, donc vider leurs souvenirs. Donc, le principe, c'est que on interroge les gens, on leur dit rappelez-vous de ce souvenir. La machine, le construct, reconstruit l'environnement, ils revivent ces souvenirs et ensuite on les écrase. Et donc, au fur et à mesure, ces personnages vont se vider de leur mémoire, de leurs souvenirs. D'où aussi le choix des coquelicots qui représentent symboliquement le souvenir. On a vraiment cette chose où on vide les gens pour qu'ils deviennent des coquilles. Creuses, ouais. Dans lesquelles on va pouvoir les embrigader, en fait.
Allez, une dernière question.
Allez, on va conclure, effectivement, parce que là, je pense qu'on pourrait passer la matinée. Oui. Enfin, moi, c'est pas un problème pour moi. J'aurais aimé parler un peu plus de Collectif 8, mais là, on n'a plus beaucoup de temps. J'espère vous recevoir à nouveau. Hein,
j'espère aussi.
M'entretenir avec vous. Donc, pour résumer, un spectacle qui fait réfléchir avec de l'innovation numérique. Je vais rappeler quand même importance. Hein, Théâtre de Loul, La Factory, c'est tous les jours sauf le mardi, jour de relâche, et c'est à 17h10 et jusqu'à la fin du festival, donc jusqu'au 21 juillet. Merci infiniment à tous les deux.
Merci à toi.
Merci à vous. Et aux futurs spectateurs qui seront là.
Et aux futurs spectateurs. Et j'espère pouvoir parler avec vous aussi des prochains spectacles.
Avec plaisir.
Un grand, grand merci, Gaëlle et Paolo.
Merci.
Merci.
Merci.